Bonsoir et bon début de semaine à tous. La campagne électorale pour la présidentielle couplée aux législatives et provinciales du 20 décembre en RDC a démarré hier dimanche sur toute l'étendue de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a lors du lancement de sa campagne électorale au stade des martyrs de Kinshasa, déclaré que rien de mal n'arrivera aux Congolais tant qu'il sera là. Il s'est dit être prêt à donner sa vie pour les Congolais. Au cours de son adresse à ses sympathisants, le président sortant a vanté ses réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement des bases, la gratuité de la maternité, la couverture santé universelle et le programme de développement de 145 territoires qui, selon lui, place le Congolais au centre de son action. Le candidat Martin Fayulu Madidi était à Bandundu dans la province du Kwilu. Il a lancé sa campagne électorale pour la présidentielle de décembre prochain. Il s'est présenté comme le candidat de la rupture et la lutte contre les antivaleurs. Martin Fayulu s'intéresse particulièrement à la reconstruction et réhabilitation des infrastructures. Moïse Katumbi, quant à lui, a lancé sa campagne ce lundi à Kisangani dans la province de la Tchopo. Il a promis de reconstruire le pays et mettre fin à la guerre dans quelques mois. Contrairement aux années précédentes, le lancement de cette campagne a été quand même assez timide dans les grandes villes de la République. Quelle est l'histoire du lancement de la campagne électorale? Nous en parlons ce soir avec Alain Parfait Ngulungu, analyste politique. Il est chercheur associé en gouvernance climatique au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Alain Parfait Ngulungu, bonsoir.
Bonsoir Madame Tilly.
Aussi avec moi dans ce studio, Itiel Batumike, chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Itiel Batumike, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à vos débatteurs ici présents.
Le professeur Bob Kavamba, il n'est pas encore en ligne, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et il est aussi politologue à Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous nous suivez sous la 98.4 et si vous êtes en dehors du pays, merci de nous rejoindre, je voulais dire, sur www.radio-okapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Vous le savez, la campagne électorale a officiellement démarré hier dimanche 19 novembre sur toute l'étendue de la RDC. Les différents candidats à l'élection présidentielle se sont déployés dans les différentes villes du pays. Paul Matendo pour le reportage.
Au cours de son adresse à ses sympathisants, le président sortant a vanté ses réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement des bases, la gratuité de la maternité, la couverture santé universelle, ainsi que le programme de développement de 145 territoires qui, selon lui, place les Congolais au centre de son action. Il a aussi promis de booster l'agriculture et la production locale pour faire face aux importations et ainsi baisser les taux du dollar américain. Parlant des autres candidats, Félix-Antoine Tshisekedi a expliqué à ses potentiels électeurs, je cite, « Je vous dis que d'autres candidats viendront pour vous faire des promesses pour construire ceci ou cela, mais cela ne sera pas vrai puisque parmi eux, certains ont dirigé dans ce pays. Ils ont eu le pouvoir et n'ont même pas construit une seule route. » Fin de citation. Pour sa part, le candidat Martin Fayulu Madidi a choisi la ville de Bandundu dans la province du Kwilu où il est arrivé ce dimanche 19 novembre pour lancer sa campagne électorale pour la présidentielle de décembre prochain. Il s'est présenté comme les candidats de la rupture et de la lutte contre les antivaleurs. Martin Fayulu Madidi s'intéresse particulièrement à la construction et réhabilitation des infrastructures. Ce que je vais faire, je vais bâtir un État congolais libre, fort, digne et prospère. Je vais assurer l'intégralité territoriale du pays, la cohésion nationale et je vais promouvoir la gouvernance de terrain. Je vais faire en sorte que les Congolais soient mieux éduqués. Je vais promouvoir l'agriculture pour donner à manger aux gens. Je vais promouvoir les biens sociaux de base, l'eau, l'électricité et la santé. Je vais réhabiliter les routes et les trains et construire les voies ferrées. Je vais exploiter le fleuve Congo et l'autre voie lacustre, a-t-il insisté. Le candidat président Moïse Katumbi a lancé, lui, seulement ce lundi 20 novembre, sa campagne électorale dans la ville ville de Kisangani, province de la Tchopo. Moïse Katumbi a sollicité le voix des populations de cette entité en vue de gagner les élections de décembre 2023. Il a profité de cette occasion pour présenter également les candidats députés nationaux d'Ensemble pour les changements et ceux du parti LGD d'Augustin Matata Ponyo. Si vous me faites confiance, je vais reconstruire ce pays et mettre fin à la guerre de l'Est en quelques mois, a-t-il promis. Signalons que, contrairement à la campagne électorale de 2018, le premier jour n'a pas été très mouvementé à Kinshasa.
Merci Paul Matendo pour ce reportage. Alain Parfait, Ngulungu, vous êtes analyste politique, mais aussi chercheur associé en gouvernance climatique au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. La campagne commence officiellement hier, dimanche 19 novembre, sur toute l'étendue de la RDC. Un début quand même assez timide. Quelle est votre perception, votre lecture de ces lancements de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre prochain?
Merci Madame Kelly pour la question. J'aimerais de prime abord, avant de commencer, saluer mon co-débatteur ici, ainsi que Bob Kabamba qui nous sont en ligne. Oui, la campagne a été amorcée de manière timide pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, la RDC fait face à plusieurs défis actuellement, notamment le principal, c'est celui de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Plusieurs pans entiers de notre territoire sont occupés par les forces, par la soldatesque du M23 en particulier, notamment dans la partie orientale. Mais il y a aussi des problèmes d'ordre socio-économique qui aiguillonnent la paix, qui aiguillonnent la sérénité des citoyens congolais appelés à voter dans les jours qui viennent. Et donc, la campagne commence vraiment dans cette atmosphère-là, une atmosphère timide, mais aussi il y a une sorte de déséquilibre entre les forces politiques et sociales en présence, comme vous le savez. La majorité, c'est celle qui a les tenants du pouvoir, qui tient toutes les ressources de l'État par rapport aux forces de l'opposition qui visiblement n'ont pas assez de moyens, assez de ressources pour participer activement à cette plébiscite politique. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est vraiment un déséquilibre de forces en présence, mais il est de noter aussi qu'il y a une sorte d'épée de brave entre les principaux leaders d'opposition, surtout par rapport à cette rencontre historique entre Martin Fayoulou et Félix-Antoine Tshisekedi au cours d'une réunion organisée par la CENI, et cela a décrispé un peu le climat politique. Et nous pensons que dans cette allure, nous pouvons, malgré tous ces défis mentionnés, des acteurs politiques en présence, donc des opérateurs politiques qui concourent à cette campagne électorale, poseront des actes de responsabilité pour amener les citoyens à faire des bons choix, mais aussi à éviter à l'ensemble du pays des discours tendant vers la haine, vers la division. Et donc nous pensons que avec cette allure amorcée déjà par des signaux avancés par les plus grands partis politiques, comme on l'a vu, Moïse Katumbi à Kisangani, les présidents sortant au stade des martyrs, je crois hier, et sont des très bons signes malgré cette timidité-là auprès de plusieurs partis politiques dus essentiellement au manque de ressources et à ces déséquilibres de forces entre les parties prenantes à la campagne électorale.
Alors, manque de ressources, déséquilibre entre les forces en présence. Il y a une autre opinion qui estime que certains Congolais sont toujours, ou restent toujours assez sceptiques quant à l'organisation des élections le 20 décembre 2023. Malgré le lancement de la campagne, certaines personnes hésitent toujours à se lancer. Ils ne sont pas encore très sûrs, en fait.
Mais oui, mais là, il faut remonter un peu à l'histoire récente avec l'administration électorale telle qu'effectuée par la CENI. La CENI, avec cette affaire des duplicata, dont une large majorité des Congolais n'en ont toujours pas, et donc j'hésite fort qu'il y ait une forte participation politique à l'absence de ces duplicata-là dans les chefs des plusieurs électeurs.
Alors, parlons des discours des différents candidats. On a suivi Félix Tshisekedi au stade des martyrs qui s'est dit être prêt à donner sa vie pour les Congolais tant qu'il sera là. Rien de mal n'arrivera aux Congolais, le monde au Congolais. Aux Congolais, je voulais dire, de lui faire confiance, de lui donner un nouveau mandat. De l'autre côté, Martin Fayulu parle de rupture, rupture, mettre fin aux antivaleurs. Katumbi parle de reconstruction et aussi mettre fin à la sécurité dans la partie est de la RDC.
La crainte est que beaucoup d'acteurs politiques éludent les problèmes essentiels politiques et socio-économiques de la population congolaise pour embrasser du discours du genre « je cherche à voler l'éternité au pouvoir, je suis un homme de la rupture ». Je crois que le peuple congolais, ce dont il a besoin actuellement, c'est de donner des remèdes aux maux qui aiguillonnent la situation socio-économique de notre pays. Et je crois qu'il est vraiment appelé, et ça c'est un appel pathétique aux candidats, de faire des propositions, de faire des recommandations idoines qu'elle soit pour justement conjurer la misère sociale et économique dans laquelle est plongée la majorité de nos compatriotes.
Vous pensez bon, que oui. Tout se passe à côté de l'essentiel?
Oui, il me semble que tout se passe à côté parce que les discours du genre « c'est l'homme de la rupture », c'est du déjà entendu. Le peuple congolais connaît cela, nous sommes au troisième cycle électoral. Je crois que les partis politiques et tous ceux qui, que ce soit de la majorité ou de l'opposition politique, devraient amener auprès de leurs électeurs une très belle offre politique, de manière schématique, de manière programmatique. Comment peut-on résoudre les situations difficiles dans lesquelles se trouvent la plupart de nos concitoyens? Et je crois que si nous continuons avec cette rhétorique, excusez-moi les termes, qui n'a pas son sens actuellement, c'est pas assez dont les peuples congolais attendent. Le peuple congolais attend des propositions concrètes pour lutter contre la pauvreté, pour mettre fin à l'insécurité alimentaire qui a emporté pratiquement 21 millions de nos concitoyens dans la misère, dans une sécurité alimentaire la plus aiguë. Nous avons besoin de savoir comment peut-on mettre fin à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de voir comment notre pays peut, sur le plan international, se requinquer et participer activement comme d'autres pays sur la scène internationale. Mais aussi, nous avons besoin vraiment de transparence. Ces partis dont ils incarnent aujourd'hui, ces formations politiques, nous voulions savoir où prennent-ils de l'argent pour faire la campagne. Il y a une loi de 2008 sur le financement des partis politiques. Nous devons savoir où a-t-on mobilisé ces financements-là pour assurer leur campagne électorale. C'est la chose la plus simple qu'ils pouvaient expliquer aux Congolais. Nous ne voulions pas avoir certaines machines politiques avec plus de moyens, plus de ressources que d'autres. Et donc, vraiment, si on part sur ces bases-là, de la transparence, sur ces bases-là de la responsabilité, mais nous aimerions aussi voir que des acteurs tiennent des discours responsables. Pas des discours amenant à la division, pas des discours appelant des discours incendiaires comme on en a l'habitude de voir dans certains médias, essentiellement dans les médias sociaux. Nous avons besoin de voir les acteurs politiques, surtout ceux qui sont en campagne actuellement, dire à leurs militants de ne pas injurer tel ou tel. Donc c'est ce genre de choses qui nous amènent vers une sorte d'émulation de manière collective et ça pourrait apaiser les esprits et faire participer tous les citoyens à un vote qui soit un vote apaisé.
Itiel Batumike, chercheur à Ebouteli, Institut Congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Votre analyse sur le lancement, le début de la campagne électorale.
Je note d'abord qu'il y a timidité, comme on venait de le dire. Cela peut s'expliquer par le fait que l'opposition n'est pas encore suffisamment prête, puisqu'elle est encore dans les tractations pour désigner son candidat unique ou commun. Mais on espère qu'il vont y arriver. Mais au-delà de cela, il y a la méfiance envers le processus électoral lui-même. On a vu que l'abstention pourrait arriver à un taux record d'abstention au cours de ces élections, puisque les gens ne font pas confiance en la CENI pour organiser les élections crédibles. Et nous pensons que ça peut justifier la timidité que l'on observe actuellement. Mais bon, on est encore au premier jour, au deuxième jour. On espère que ça pourra ça pourra prendre de l'allure dès qu'il y aura assez de clarté dans les différents camps politiques. L'autre question, c'est, Alain Parfait l'a dit tout à l'heure ici, c'est la question de l'impréparation et de l'insuffisance des moyens dans les partis politiques, puisque la loi sur le financement des partis politiques votée depuis 2008 et qui devrait être d'application depuis 2012 n'est pas d'application jusque-là. Aucun fonds n'a été prévu dans le budget de l'État depuis 2013 à cet effet. Et donc ça fait que les partis politiques dont on sait qu'ils n'ont pas assez de cotisations de leurs membres peinent à mobiliser les fonds pour se lancer sur l'ensemble du territoire national, et cela va nécessairement créer le déséquilibre entre les partis politiques. Et le grand risque, c'est que les moyens de l'État peuvent être utilisés par ceux qui sont au pouvoir, sachant qu'il n'y a aucune obligation, par exemple, pour les membres du gouvernement de démissionner pendant la campagne électorale. Donc on devrait veiller à ce que les gens ne privilégient pas à recevoir les cadeaux, les t-shirts des candidats, parce que c'est cela aussi la tentation vers les candidats pour puiser dans les caisses de l'État. Alors, historiquement, je dois noter que les campagnes électorales en République démocratique du Congo se sont souvent focalisées dans les débats autour des personnes, dans les attaques personnelles, dans les débats, la polarisation autour des régions, des origines des candidats. Et cela est très contre-productif parce que ça ne permet pas à la population d'avoir des clartés sur les offres politiques des différents candidats à l'élection présidentielle, et ça tourne rapidement au discours de haine et à des appels à la violence. Donc ce qu'il y a à faire aujourd'hui dans cette campagne, c'est d'appeler, comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, les responsables politiques à plus de responsabilités, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République lorsque Martin Fayulu a été attaqué à Tshikapa, en appelant ses partisans dans son fief naturel à plus de tolérance pour qu'il n'y ait pas de violence électorale. Et nous, à l'Institut Ebouteli, on a lancé un outil d'aide au vote qui s'appelle Keba, kebardc.cd, qui permet aujourd'hui aux Congolais de comparer leurs opinions aux offres des différents candidats présidents de la République. Parce que nous voulons contribuer à ce que les débats tournent autour des idées, des offres politiques des candidats et non autour de leurs personnes. Ça, c'est la première chose. Et donc, je disais qu'il y a cette crispation qui permet aujourd'hui à ce que les gens parlent. On a vu la Cour constitutionnelle suspendre les poursuites contre Matata et les renvoyer vers mars 2024. C'est un pas dans la bonne direction et ça devrait être encouragé. Nous espérons que cela va contribuer, que les manifestations des différents candidats de l'opposition ne seront pas entravées par des attaques de la police, des coups de gaz lacrymogènes, et qu'il y aura cette équité-là. L'autre appel peut-être à faire, c'est le rôle du CESAC, en fait. Le CESAC devra veiller à ce que les médias publics et privés veillent à l'équité entre les candidats pendant cette période.
Il y a une grande émission qu'on va organiser avec le CESAC, justement, sur le rôle des médias pendant cette campagne électorale. Etienne Batoumiki.
Donc ça sera très intéressant lorsque vous aurez cette émission, afin que le CESAC joue son rôle d'église au milieu du village, que tous les candidats puissent avoir le même temps de parole dans les médias, et que surtout la RTNC, qui est un service public, puisse demeurer au centre entre les différents candidats et que l'on ne privilégie pas plus ceux qui sont au pouvoir. Mais j'aimerais quand même revenir sur la question des bilans. En fait, lorsque le président de la République parle...
Alors là, nous sommes dans les discours déjà, des candidats qui se sont exprimés déjà.
Justement. Je voudrais revenir un peu sur les propos du président de la République lorsqu'il se compare à d'autres candidats, qu'il dit avoir exercé des fonctions sans faire quoi que ce soit. Ces concurrents n'ont pas exercé la même fonction qu'il occupe. Et donc ça devrait être tenu lorsqu'on... Ça devrait être pris en compte lorsqu'on fait des comparaisons pour éviter de désorienter l'opinion. On ne peut pas comparer le bilan d'un gouverneur de province à celui du président de la République, sachant que notre système politique accorde plus de pouvoir au président de la République, et le président de la République peut faire beaucoup de choses s'il a la volonté et la détermination, contrairement au premier ministre qui dépend et qui exécute d'ailleurs dans notre esprit et dans la pratique la vision du chef de l'État. Je voudrais également dire que lorsque le président dit qu'il est prêt à donner sa vie, il l'a déjà dit plusieurs fois. Il a mené certes beaucoup de réformes dans le secteur de sécurité, mais je me demande aujourd'hui, 2 ans après la résurgence du M23, bien qu'il se bat comme il le peut, il n'a jamais été dans l'est du pays. Il a dit une fois qu'il pourrait guider les opérations à partir de son bureau. J'espère qu'il fera aussi la campagne à partir de son bureau. Donc, ça signifie en même temps qu'il y a trop de discours, mais il faut essayer de voir au fond la faisabilité de ce que les différents candidats sont en train de dire. Et là, je pense.
Et de proposer.
Et de proposer. Et le président de la République a un bilan. Et il sera jugé sur ce bilan-là. Et ses opposants, ils ont également des promesses. Parce que j'ai entendu certains l'attaquer, qu'il fait beaucoup de promesses. Mais en même temps, eux aussi, ce sont des promesses. Parce qu'il ne s'agit pas des actions concrètes. Ceux qui cherchent à accéder au pouvoir ne font que des promesses. Et le président de la République, je pense qu'il a alors là, dans ce contexte-là, à son avantage, un bilan qu'il peut présenter, quoi qu'il peut être attaqué, mais c'est un bilan. Lorsqu'il parle de la gratuité de l'enseignement, lorsqu'il parle de la gratuité de la maternité, je pense effectivement qu'il a eu, à travers ces deux programmes-là, à toucher les Congolais qui vivent dans des milieux ruraux et peut-être qu'ils n'avaient pas des moyens pour accéder à ces services sociaux de base. Et la gratuité de l'enseignement, elle peut avoir ses failles, mais aujourd'hui, c'est un programme qui est salué même au niveau international par la Banque mondiale y compris. Et c'est à l'actif du chef de l'État. Et c'est pourquoi, moi, je voudrais encourager les différents candidats à rester dans les programmes, à rester dans les réalisations, pour qu'on ne verse pas dans la violence électorale et dans les discours d'haine. Parce qu'à chaque fois qu'on s'attaque aux personnes des concurrents, très facile, il y a le risque de glisser vers la violence alors qu'il y a des programmes, des idées et un bilan qu'on peut défendre et avoir à récolter les voix de part et d'autre.
Merci, Tel Batumike, professeur Bob Kabamba. Est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir madame, je suis bien en ligne après les soucis techniques.
Professeur à l'Université de Liège, en Belgique, et politologue. Professeur, comme vous le savez, la campagne électorale a été lancée officiellement hier dimanche 19 novembre 2023 sur toute l'étendue de la RDC. Nous sommes au deuxième jour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette campagne qui a commencé?
Oui, merci pour la question et pour l'invitation par rapport à ce débat. Donc, je dois déjà, saluer d'abord mes deux co-débatteurs, souligner que, bon, il y a eu 25 candidats qui ont été déclarés et qui se sont lancés dans la course. Et alors, au vu de ces dernières informations qui sont en train de tomber depuis maintenant quelques heures, on se rend bien compte qu'il y a maintenant une dynamique duale qui va essayer de se mettre en place. La dynamique duale va être d'une part le président sortant contre un président, contre un candidat qui est en train de progressivement de pouvoir rallier les autres candidats à sa cause. Alors ce qui nous amène à pouvoir dire que ce phénomène de ralliement vers un candidat en particulier va avoir un effet ce qu'on appelle contractuel, ça veut dire que au niveau de l'autre candidat, le candidat sortant, le président Félix Tshisekedi, va être amené à pouvoir prendre des dispositions qui vont certainement avoir des répercussions sur la campagne de celui pour lequel beaucoup de candidats pour l'instant sont en train de se désister à sa faveur. Et ces restrictions vont être essentiellement déplacements, campagne, etc., pour commencer progressivement à limiter ces possibilités de pouvoir aller faire campagne en RDC. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'élection présidentielle, il y a toujours ce qu'on appelle les élections régionales. Donc c'est toujours une confrontation entre des pôles. Vous avez le pôle Est, le pôle Centre et le pôle Ouest. Et ces trois pôles ont toujours constitué dans l'espace politique congolais l'affrontement par rapport à ces élections. Donc le pôle Est qui est majoritaire toujours, et vous avez le pôle Centre qui joue des fois avec l'Est, des fois avec l'Ouest. Et pour l'instant, par rapport aux prévisions qui sont en train de se dessiner, on se rend bien compte que nous risquons d'aller vers un affrontement Est-Centre. Est-Centre, ça veut dire toute la province, l'ancienne province orientale, l'ancienne province de Kivu et l'ancienne province du Katanga contre l'ancienne province donc du Kasaï. Et l'Ouest, pour l'instant, avec les candidats qui sont déclarés, de plus en plus, on se rend bien compte que ce ne sont pas vraiment des candidats qui sont en mesure de pouvoir être à hauteur, de pouvoir affronter, de pouvoir tenir, de pouvoir être pris en considération dans l'affrontement qui est en train de se dessiner. Et dans ce combat Est-Centre, en sachant bien que l'Est est toujours majoritaire en termes électoraux, l'Ouest qui vient apporter soit un soutien au centre, soit un soutien à l'Est, et les prévisions que l'on est en train de voir, c'est que, vous pouvez m'excuser, c'est que on est en train de voir qu'avec la dynamique qui est lancée maintenant par le candidat Katumbi, est en train de prendre de l'ampleur, et ça risque d'être une vague, comme on l'a connu en 2018, qui était la vague avec les Fayoulou à l'époque, qui a, entre guillemets, réussi à avoir l'adhésion de pratiquement...
On sent comme ça grippé, professeur.
Oui, parce qu'il fait froid en Belgique pour l'instant, il fait froid en Belgique pour l'instant, je m'excuse, vous pouvez m'excuser. Donc c'était pour insister sur le fait que nous irons certainement vers un affrontement Est-Centre, et dans l'affrontement Est-Centre, sur base d'élections de 2006, 2011 et 2018, dans ce genre d'affrontement, généralement, c'est l'Est toujours qui gagne.
Alors, cette campagne a commencé timidement. Nos deux co-débatteurs dans ce studio ont relevé les raisons qui pourraient être à la base de cette campagne timide qui a commencé, notamment les moyens financiers, des déséquilibres entre les forces en présence. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
Oui, la campagne a commencé timidement parce que tout simplement le processus électoral n'est pas crédible. Le processus électoral de la part des électeurs congolais, ils se rendent bien compte que le processus risque d'être biaisé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, on a déjà eu quand même beaucoup d'éléments. La Cinco, SSC et Boutelli ont déjà publié des rapports qui indiquent que le processus est non seulement pas crédible, mais aussi non transparent. Et puis beaucoup de choses se passent dans l'opacité qui ne permet pas de pouvoir rassurer les électeurs. Un élément important, ce que j'ai même eu à l'expérimenter moi-même quand j'étais au Congo il y a quelques semaines, c'est que la question liée par exemple aux cartes qui s'effacent, c'est que les gens qui veulent aller chercher leurs cartes pour les duplicata n'y arrivent pas parce qu'il faut payer, parce qu'il y a toute une série d'entraves qui empêchent justement à ce que les électeurs puissent arriver à avoir cette carte. Or, ça va avoir un incident non seulement par rapport à la crédibilité, mais aussi au taux de participation sur le processus. Donc il y a cet le premier élément. Deuxième élément qui est à prendre en considération, c'est qu'on a d'une part une distorsion entre ceux qui utilisent les moyens de l'État pour faire campagne et ceux qui doivent utiliser leur propre denier pour faire campagne. C'est-à-dire que lorsque l'on a un président sortant qui utilise les moyens de l'État, c'est-à-dire aussi bien les parlementaires, les ministres, les services du gouverneur, les services de secteur, les services des chefs de les administrateurs de territoire, etc., toute cette machine qui est mise à disposition du candidat sortant est disproportionnée par rapport à d'autres candidats qui doivent utiliser leurs propres moyens. Alors, dans un contexte d'incertitude, de pouvoir savoir si le processus aura bien lieu, la plupart des candidats, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Ils vont jouer la prudence pour ne pas mettre leur propre denier dans la campagne et attendre, voir un peu ce qui se passe. Donc il y a ce phénomène-là qui est là. Troisième élément qu'il faut prendre en considération, c'est la question sécuritaire. On sait très bien que le M23 n'est pas arrêté, il est en train d'avancer encore une fois. En suivant Radio Capi, j'ai suivi aujourd'hui qu'il y a encore des villages qui ont été pris par le M23. Et donc tout ce processus qui montre que non, au niveau sécuritaire, que les choses risquent effectivement d'arriver à dégénérer et de ne pas permettre à une bonne partie de la population d'aller voter, tout ça fait en sorte qu'au niveau des candidats, au niveau de tout le processus, il y a cette timidité, il y a ces réserves que les différents candidats qui peuvent utiliser leurs moyens ne le font pas à cause de ces différents éléments que je viens dénoncer.
Merci, professeur Bob Kebama. Merci également à ces nombreux internautes qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Kiapi. Mara Dedi Mananika depuis Kinshasa, merci de suivre cette émission. Jires Kiabulo depuis Kolwezi, depuis Kabinda, chef de la province de Lomami, Jean Bon, voilà, qui nous suit, qui est très à l'écoute de cette émission. Docteur Blaise Mouchagaloussa depuis la province du Nord Kivu, Lucien Ilunga depuis Kamina dans le Olomami, Nonson Mangere, merci, depuis Goma au Nord Kivu, vous êtes très très nombreux. On va ouvrir le standard pour prendre aussi ces autres auditeurs qui appellent pour donner leur point de vue. On va se rendre à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Non, pas Bukavu, plutôt à Kisangani, dans la Tchopo, pour écouter cet auditeur, Benjamin.
Benjamin Melima Melingo, je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. La lecture que nous pouvons faire du lancement de la dite campagne est que la timidité se justifierait par manque de moyens financiers des candidats compétiteurs, espérant ainsi avoir un financement de la part de leurs partis politiques respectifs pour battre la campagne. La non-disponibilité des avions permettant le déplacement des candidats, l'impraticabilité des routes, ainsi que les doutes qui planent sur le financement du processus électoral et le déploiement des matériels électoraux qui ne sont toujours pas livrés à ces jours pour tenir à la date du 20 décembre 2023.
Alain Parfait, que pensez-vous de cette réaction de Benjamin ?
Mon compatriote, je crois qu'il a tout à fait raison. La timidité résulte, vous savez, nous avons pratiquement 910 partis politiques. Avec, si je ne me trompe pas, plus au national, plus de 9000 candidats. Et donc, c'est déjà une histoire qui démontre clairement que les gens sont, c'est vrai, ils sont avides de pouvoir, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires pour y arriver et participer activement à la compétition électorale. Par rapport au problème de déploiement des matériels, c'est là, vraiment, c'est une responsabilité de la CENI de pouvoir rassurer le peuple congolais par rapport, dans une dynamique, bien entendu, de la transparence électorale, de la bonne gouvernance de la chose électorale, pour rassurer les électeurs que les matériels, sur le plan logistique, que les matériels sont déjà arrivés à temps dans les circonscriptions électorales en vue de permettre à tous les citoyens d'aller voter de manière assurée. Mais aussi, il y a un élément qui est la CENI élude par rapport à la loi électorale. La CENI est appelée à mettre tout au point dans les délais pour permettre à tous les citoyens de se rassurer qu'il y aura véritablement les élections. On a fait allusion tout à l'heure au problème des cartes duplicata. Est-ce que ces cartes-là sont-elles disponibles dans les lieux indiqués? Il me semble que non. Dans la plupart des cas, les gens qui s'y rendent ne trouvent pas la disponibilité de ces cartes-là. Et donc, il y a déjà, on peut s'attendre à une faible participation électorale suite à ces manques-là. Un autre aspect, comme le disait notre compatriote Benjamin, il y a ces problèmes des transports. Là, ça revient vraiment au gouvernement national et au gouvernement dans les provinces de pouvoir faciliter les transports de matériel électoraux en vue d'être assuré qu'il y aura véritablement l'élection. Mais peut-être pour chuter, j'aimerais vraiment lancer un appel à la CENI. Vous savez, la santé d'une démocratie, on la teste par les votes qui sont organisés de manière régulière, mais de manière aussi transparente. La CENI est appelée à mettre tout au point pour nous rassurer, est-ce qu'à ces jours, ils ont tous les financements disponibles pour organiser les 20 décembre ces élections-là générales. Je crois que tant qu'elle ne se prononce pas sur cela, tant qu'elle n'assure pas la population sur cela, il y a des doutes, il y a cette sorte de timidité.
Malgré le lancement de la campagne électorale.
Rien n'est sûr qu'ils ont actuellement, la CENI actuellement, les 300 millions attendus du gouvernement national. Qu'elle nous les déclare officiellement qu'elle a déjà entre dans ses caisses cette disponibilité-là financière. Et cela va beaucoup plus rassurer la population d'aller voter les 20.
Japhet Tambwe, depuis Bounia, félicite tous les efforts fournis par la CENI jusqu'à ce jour. Ceci témoigne l'engagement de la CENI à organiser les élections. Le peuple congolais doit consolider les acquis. Merci à Caleb Boum, qui nous suit depuis Kolwezi, dans la province de Kolwezi. Il dit ceci, il aime bien les sujets abordés ce soir dans cette émission. Alors, après Kolwezi, on va se rendre dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, pour écouter cet autre auditeur, Dieudonné.
Je m'appelle Dieudonné Bangéfis. J'interviens depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Moi, personnellement, qui vous parle, je suis sur terrain et je dois vous avouer que cette campagne électorale lancé officiellement par la CENI vient d'apporter des cauchemars dans les chefs de quelques candidats des partis politiques, non seulement de l'Union sacrée, mais également de l'opposition, qui s'attendaient à un financement pour battre leur campagne. Mais les nouvelles qui nous parviennent sont catastrophiques. Cette timidité de la campagne électorale est sans nul doute, à mon humble avis, la conséquence logique des habitudes des anciens élus qui avaient très mal habitué les gens avec l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, les autres ne savent pas commencer leur campagne sans argent. Pendant s'agissant du bilan du président Fatih, nous devons être sincères avec lui-même pour lui dire que ce quinquennat n'est ni positif, encore moins négatif. Et c'est important que lui-même reconnaisse ça, bien qu'il ne peut pas le dire ouvertement.
Itiel Batumike.
Je pense qu'il il revient sur les aspects que nous avions déjà évoqués, en disant par exemple que les gens devraient éviter de demander aux candidats de leur donner des t-shirts.
Ce sont les candidats qui ont mal habitué.
Oui, ils ont mal habitué, mais je pense que on ne doit pas voter en fonction des pourlots. Il faut voter en fonction des programmes, en fonction des offres politiques. La Cinco l'a rappelé dans son message à l'occasion de sa 60e Assemblée Générale des évêques pour dire qu'il y a des critères qu'on doit respecter pour voter des candidats. Il faut tenir compte des gens qui n'alignent pas, par exemple, des membres de famille comme Cyprien, des gens qui ne postulent pas à plusieurs niveaux au même moment. Et donc, essayer de voir des critères objectifs qui peuvent fonder le vote d'un citoyen et non pas parce qu'on a reçu tel ou tel autre présent. D'ailleurs, vous allez vous rappeler que dans sa proposition de réforme de la loi électorale, le G13 voulait que l'on interdise la distribution des cadeaux pendant la campagne électorale. Cela n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais on devrait veiller à ce que, dans la pratique, les gens se comportent de telle sorte à être plus exigeants sur ce que les gens comptent faire lorsqu'ils seront au mandat pour lequel ils sont en train de solliciter le vote. Par rapport au bilan du président de la République, je l'ai dit, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Il demande à ce qu'on lui donne un second mandat pour consolider ce qu'il appelle des acquis. Je crois qu'il en a le droit, il en a le droit parce que la Constitution le lui permet. Il peut encore solliciter un second mandat, d'ailleurs un dernier mandat, selon la Constitution. Et donc, c'est à lui de défendre son bilan en disant qu'il a réussi. Et lui-même, il le dit par exemple en disant que sur le plan de la justice, il n'est pas satisfait de la manière dont la justice a travaillé. Et donc, lui-même, il reconnaît des erreurs ou des failles à un moment donné et il ne s'empêche pas, à raison, de vanter ce qui a marché, comme le programme de la gratuité, de l'enseignement, de la maternité, ou même le programme de 145 territoires, parce qu'il faut le dire, les territoires dans ces pays ont toujours été oubliés dans la gouvernance du pays. On pense que le pays se limite à Kinshasa, que le pays se limite dans les villes, mais avec ce programme, ce n'est pas parfait à 100%, mais au moins il y a des choses qui se font dans ces territoires, et je pense que c'est à son actif. Alors pour d'autres choses qui n'ont pas marché, peut-être qu'il peut se rattraper ou pas, mais c'est au peuple de juger si c'est positif ou pas positif, et de voter en fonction des offres qui sont en face. Mais je voudrais revenir un peu sur l'analyse du prof Bob Kabamba que je partage. Et c'est d'ailleurs dommage qu'aujourd'hui les votes tentent encore de se polariser autour des régions, l'Est, l'Ouest, qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, c'est dommage et c'est malheureux.
Il y a même un auditeur, Jonathan Modoumo, depuis la ville de Kisangani, qui dit ceci: je doute fort concernant la transparence. Les présentes élections viennent encore diviser plus les Congolais.
Malheureusement, et c'est dommage, parce que contrairement aux élections de 2018, on a vu qu'il n'y avait pas cette bipolarisation entre l'Est et l'Ouest. On a vu que Fayulu de l'Ouest a été porté par l'Est. Fayulu, en tout cas, a fait des plaintes à Lubumbashi, à Kindu, même dans le fief de Ramazani Shadari. Et donc, ça, on devrait consolider. Ça, c'est un acquis des élections de 2018, où les gens ont voté et se sont mobilisés autour des candidats, pas en fonction des régions de leur d'origine des candidats. Et donc, il faut que l'on insiste que ce vote ne doit pas se polariser. D'ailleurs, je rappelle qu'on est passé de deux tours à un seul tour pour essayer de casser cette bipolarisation entre l'Est et l'Ouest au second tour de l'élection présidentielle. Et donc, il faut aujourd'hui arriver à faire en sorte que les candidats soient accueillis partout au Congo comme s'ils étaient chez eux et que l'on les écoute sans leur montrer qu'ils ne sont pas chez eux, parce que le Congolais est partout chez lui. Et ça, on doit le consolider, je pense.
David Wedi, Tshokonda depuis Kinshasa, pendant cette période de la campagne électorale, les présidents candidats doivent diminuer le degré des discours tribaux qui pourraient engendrer d'autres conflits avant la fin de la campagne. On va se rendre à présent à Bukavu pour prendre le dernier auditeur qui nous appelle.
Jean Jato Igilima à partir de Bukavu en province du Sud-Kivu. Le lancement de la campagne électorale hier est l'une des preuves qui donne un petit espoir de l'organisation des élections d'ici la fin de l'année, nonobstant les conditions dans lesquelles la CENI compte nous organiser les 10 élections. Cependant, il s'observe une certaine inégalité sur le terrain basée sur le fait que la majorité des candidats du camp au pouvoir se sert non seulement des moyens de l'État, mais aussi de cette casquette pour se faire une certaine notoriété. Et de l'autre côté, les candidats de l'opposition qui ne présentent que les bilans négatifs de ce régime dans la perspective du changement. Eu égard à ce qui précède, nous avons remarqué que les candidats à la présidence ne font que parler de leurs conquérants au lieu de se focaliser sur ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils comptent faire. J'en appelle aux uns et aux autres de se comporter en homme d'État, car malgré la campagne électorale, le peuple n'est pas dit. Il connaît qui a déjà fait quoi et qui peut faire quoi. Une campagne de diabolisation de l'adversaire est permise en politique, mais elle peut tourner en sa défaveur, surtout quand tout ce qu'on veut coller aux autres n'est pas du tout vrai.
Professeur Kiabamba.
Merci pour la question. Cette question rejoint un peu ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure, avec la disproportion qu'il y a entre d'une part les candidats du régime et les autres. Mais néanmoins, je dois souligner un aspect important, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que l'opinion publique congolaise, pour l'instant, elle est dans une dynamique d'opposition, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une dynamique de pouvoir accompagner le régime actuel par rapport à tout ce qui vient de se passer. Puisque comme je vous ai parlé des régions Est, Centre et Ouest, vous devez savoir que chaque région a des préoccupations et attend des réponses par rapport à ces préoccupations. On a l'Est. Pour l'Est, la priorité des priorités pour l'Est, c'est la sécurité. Pour le Centre et l'Ouest, c'est le caractère social, c'est-à-dire le bien-vivre, pouvoir manger, aller à l'école, se soigner et se vêtir, etc., etc. Or, lorsque l'on prend uniquement ces deux considérations, la sécurité et le social, on peut dire par rapport au régime actuel, cela ne rencontre pas les préoccupations de ces trois régions. Et donc, les électeurs seront amenés à pouvoir voter un candidat de l'opposition pour espérer leur amener la sécurité et améliorer le social de la population. Et donc si cette population, malgré que le régime peut utiliser les moyens de l'État pour essayer de convaincre, mais les préoccupations ne seront pas rencontrées, et généralement ce qu'on a observé depuis 2006, c'est que celui qui porte les préoccupations de ces populations, c'est celui-là qui arrive à capter cet électorat en fonction, bien entendu, des originaires et en fonction de l'origine des candidats présidents de la République. Ça veut dire que si le candidat originaire de l'Est amène des propositions par rapport à la sécurité, il pourra certainement bénéficier du capital de ces populations. S'il amène avec les concurrents, les candidats du Centre et de l'Ouest, les préoccupations, les réponses par rapport aux préoccupations de l'électorat, ça veut dire l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration du social de ces populations, de ces électeurs, il va arriver à capter. Donc ça veut dire malgré que l'on peut utiliser les moyens de l'État, mais il y a toujours eu
un fonds qui va rester. On l'a vu en 2018, lorsque Sadari a utilisé les moyens de l'État pour faire campagne, mais il n'a pas réussi à battre Fayoulou, si on tient compte, bien sûr, des résultats qui ont été publiés par la CINCO, que malgré les moyens de l'État, les populations, les électeurs parviennent quand même à faire un discernement, à faire le choix par rapport au bon candidat qui est censé apporter des réponses à leurs propres occupations. Donc je crois fermement que si les élections ont lieu et que si toute chose restante égale par ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec les restrictions de campagne, il n'y a pas de problème avec la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de problème avec la publication des résultats, l'électorat congolais dans le contexte actuel ne peut pas voter pour le régime en place, votera certainement pour l'opposition.
Merci, professeur Bob Kevamba. Merci à Xavier Misombo qui nous suit depuis Sakania dans le Haut-Katanga. Eritas Kilima qui nous suit depuis Djouba au sud Soudan. Nathanaël Kiasongo depuis Mweneditu dans la province de l'Omami. Pascal Kakoudji depuis Kolwezi dans la province de Lualaba. Pense que la timidité se justifie ici à Kolwezi. Non, il dit que la timidité se justifie ici à Kolwezi par le doute sur les élections dans les chefs des Congolais, et beaucoup pensent qu'il n'y aura pas élection, mais je pense que dans une semaine, les candidats vont se bousculer. À l'imparfait, Ngulungu, analyste politique et chercheur associé en gouvernance climatique au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors, comme dit cet auditeur, ce n'est que le deuxième jour. Pensez-vous que dans les jours à venir, ça sera un peu plus mouvementé qu'aujourd'hui?
Je voudrais rassurer d'abord au prof Bob Kabapa que très loin de la République démocratique du Congo, je crois qu'il a une autre lecture de la dynamique électorale en cours, parce que il me semble que, évidemment, votre média un caractère pédagogique, il faut éviter une production intellectuelle tendant à présenter tel ou candidat de telle ou région politique. Les Congolais sont indivisibles. Je crois que ce qui nous importe actuellement, c'est de ramener les candidats, essentiellement les candidats présidentiels, à un sens de responsabilité. Et les remèdes contre ce qu'il préconise là, ou ce qu'il craint appelé polarisation du vote autour des provinces ou de certains pôles, c'est vraiment d'amener les politiciens, essentiellement les candidats présidents, à prendre un acte d'engagement qui devrait, pour nous éviter une crise post-électorale comme on a vécu au Kenya et dans certains pays africains, où les candidats s'engagent à promouvoir la paix, l'harmonie, l'encorde nationale, bref, l'unité nationale, pour nous bannir dans l'ère, justement, plébiscite de campagne, de genre, des discours de haine, des discours de diabolisation que l'on entend ici et là, voire même des discours ou des actes appelant à la violence. Et je crois que si nous faisons ce travail-là, avec une approche pédagogique, on peut réussir ces cycles électoraux. Et donc, les Congolais, et j'insiste là-dessous, il faut vraiment éviter toute production intellectuelle démontrant que nous sommes divisés, alors que nous avons ces problèmes-là déjà, qui gangrènent la paix sociale, qui gangrènent la solidarité. Et je crois qu'il n'est pas temps de... justement, malheureusement, et peut-être les profs aussi tombés dans ces pièges-là. Donc la finalité pour cet acte d'engagement est de mettre les candidats présidents de la République devant leurs responsabilités pour promouvoir la paix et l'unité nationale.
Merci Alain Parfait, Ngulungu, Itiel Batumike, chercheur à Ebouteli, Institut Congolais, sur la politique, la gouvernance et la violence. Votre conclusion.
Comme Alain Parfait, je suis convaincu que les Congolais tiennent tant à l'unité de ce pays et que son vote ne sera pas en fonction des origines des candidats. Le peuple congolais est suffisamment mûr, à tel point que nous sommes au quatrième processus électoral, et ce cycle électoral doit encore renforcer, consolider la démocratie et l'unité nationale. Pour ça, j'invite les Congolais à voter les candidats en fonction de leur programme politique, en fonction du bilan qui est défendu par celui qui les défend, et des critiques qui lui sont adressées par rapport à son bilan. ne cédons pas au discours de haine, ne cédons pas à la tentation de nous diviser en fonction de nos origines. Katumbi, Fayulu, Tshisekedi sont des Congolais et tous les autres candidats, ils sont des Congolais, ils ont le droit de parler du Congo partout au Congo, d'exposer leur vision du Congo et que le meilleur l'emporte. Parce que c'est en cela que le Congo gagne. Et ce que nous pouvons demander à la CENI, c'est d'être l'arbitre neutre, d'être au milieu du village pour que celui qui va gagner soit celui qui est proclamé en toute transparence dans le respect des règles qui sont prévues par la loi électorale et que la fête soit au rendez-vous le 31 décembre lorsque la CENI va proclamer le président de la République élu.
Merci, Itiel Batounike, professeur Bob Kebamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue. Votre mot de la fin.
Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je dois juste simplement dire que malheureusement, entre les souhaits et les réalités, il y a une différence. La réalité est que l'électorat congolais vote en fonction de ses origines. C'est comme ça, c'est la loi depuis 2006, depuis même avant l'indépendance. C'était déjà comme ça, c'est toujours dans ce sens-là. La difficulté et le problème que nous allons avoir, c'est que malheureusement, cette campagne électorale va être une campagne électorale identitaire. Et ça veut dire que nous aurons de la violence, nous aurons de la violence communautaire qui va opposer...
C'est pour prendre le sujet à revenir prochainement pour discuter sur ça. Ça, c'est la caricature qui va vendre
un soutien dans ce moment de période électorale. S'il vous plaît, à la parfaite. Oui, s'il vous plaît, on va vous donner la parole. Laissez-le conclure.
Il y a une différence entre les souhaits et la réalité. La réalité, on ne peut pas la cacher. Cette réalité, elle est là, qui nous dit que nous votons au Congo en fonction des origines. Et c'est ça qu'on a observé depuis l'indépendance du Congo jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça qui régit. Et alors, ce que nous allons avoir, malheureusement, ce ne sera pas une campagne électorale apaisée. Nous allons avoir une campagne électorale violente qui va avoir dynamique communautaire. Sans oui, on peut émettre le souhait que ça puisse se passer.
Alors, il ne faut pas le souhaiter.
La réalité aussi.
Non, 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 je ne pas.
Je ne sais pas. Par rapport au processus électoral, nous voyons très bien que nous allons avoir une dynamique violente, malheureusement. C'est ça la réalité, ce n'est pas de souhait, mais c'est, nous sommes là pour pouvoir apporter des messages clairs par rapport à la population, qui sache où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et ce qu'on a vécu dans la province de Haut-Lomami va se reproduire, malheureusement, dans plusieurs autres circonscriptions électorales. Mais on peut espérer... Il faut qu'il y ait un processus électoral clair, transparent, et que ce processus électoral peut ramener à rabaisser ces niveaux de violence au niveau donc du Congo. Voilà un peu en conclusion.
Merci, professeur Bob Kebamba. Les Congolais ont besoin d'un processus électoral aussi paisible que la campagne électorale se passe dans des bonnes conditions, sans violence. Je vous avais déjà conclu. Vous avez vraiment 30 secondes, et puis on clôture toute l'émission. On a largement dépassé les minutes.
Les cœurs du prof sont réels. Nous les connaissons. Nous essayons de dire depuis le début de ce processus électoral que les choses se passe très mal dans l'organisation technique du processus électoral et que cela pourrait conduire à la violence électorale. Mais dire que le Congolais vote toujours selon la tribu, je ne pense pas que ce soit correct. Parce que je l'ai dit,
c'est correct, en 2018,
les gens ont voté Fayulu de partout.
Alors, on risque Professeur, nous sommes vraiment à la fin de l'émission.
Je suis arrivé en retard par rapport au débat.
On pourrait organiser une autre émission sur le vote.
Oui, je suis arrivé en retard. Je voudrais rappeler que le prof est basé en Belgique, vous comprenez là-dessus.
Au vote de Fayulu à l'est de l'électorat, le vote de Fayulu à l'est a été dicté...
Malheureusement,
on l'a perdu, il est parti.
Oui, comprenez que le prof se trouve en Belgique, c'est tout à fait normal qu'il soit au service, je ne sais de quelle idéologie, mais je doute fort que ces hypothèses avancées, comme du genre, les votes est tribal dans notre pays. C'est faux, nous sommes au troisième cycle. C'est vrai, il peut y avoir des volontés exprimées à l'époque, durant ces moments électoraux, pour...
Vous n'êtes pas d'accord avec lui.
Je ne suis pas d'accord avec lui.
Merci Alain Parfait.
Et nous n'aurons aucune violence durant
ce processus. Merci beaucoup, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Merci.